un podcast France Culture.
Réalisation Justine Dibling. Une si longue lettre est publiée aux Nouvelles Éditions Africaines. Retrouvez l'intégralité du générique sur le site de franceculture.fr.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Des flippers aux paris sportifs, nous nous intéressons cette semaine aux jeux de l'argent et du hasard.
Tiffaine de Roquigny.
Qu'est-ce que les machines de jeux à pièces qui envahissent les cafés et les salles d'arcade dans les années 70 et 80 nous disent de la jeunesse et de son rapport à l'argent? Comment le marché des paris sportifs s'est-il développé, au risque et péril des joueurs? Enfin, de Macao à Las Vegas, comment les casinos transforment-ils l'économie locale?
Entendez-vous l'écho du lundi au vendredi à 14h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Demain les matins, c'est dès 6h30.
Guillaume Erner.
Et ce mercredi, on évoque la diplomatie française. Quel cap suit-elle?
Les matins de France Culture. Demain à 6h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Vous écoutez France Culture, tout de suite, de cause à effet. Aurélie Luneau.
Il n'y a pas un jour où je me suis levé depuis le début de la CEC sans me dire qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour avancer dans le sens de la redirection écologique. Au niveau de ton entreprise, au niveau de ta famille, au niveau de ta vie de citoyen.
Aujourd'hui, on change de paradigme, je pense, fondamentalement. On passe d'un monde où on faisait un peu plus dans notre coin. Aujourd'hui, on se rend compte que face à l'urgence et l'ampleur du défi climatique, c'est absolument ensemble qu'on va devoir trouver des solutions.
Et oui, trouver des solutions ensemble depuis 2020 à l'école du climat et du vivant, la CEC, Convention des entreprises pour le climat, forme des décideurs aux enjeux et aux défis à relever d'ici 2030 pour faire face au réchauffement climatique et aux atteintes faites à l'environnement. Les chefs d'entreprise pourront-ils sauver la planète? Si oui, comment? Et avec quels moyens et à quel horizon? Autant de sujets et de questions que nous poserons à nos trois invités en direct sur France Culture. Avec nous, Éric Duverger. Bonsoir.
Bonsoir Aurélie.
Merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur de la Convention des entreprises pour le climat. Et avec vous, bien sûr, on va comprendre d'où vient cette envie et puis surtout comment ça fonctionne. Sophie Robert-Velu, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice générale des activités Expanscience, et Expanscience connue notamment pour Mustela. Et à vos côtés, Cécile Renoir. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe et économiste, présidente cofondatrice du campus de la transition. Alors, il faut préciser, hein, ce campus de la transition fondé en 2018, lieu de formation, de recherche, d'expérimentation qui vise à former pour transformer l'enseignement supérieur et les responsables d'aujourd'hui et de demain en vue d'une transition écologique et solidaire. Et je précise que vous êtes co-auteur du livre « Vers une autre gestion », un livre édité chez Les Liens qui libèrent, également du manuel de la grande transition paru chez le même éditeur. Et puis dans l'œil du monde planète, c'est la journaliste du quotidien Le Monde, Perrine Moutarde, qui nous parlera de l'extraction des ressources naturelles qui atteint un rythme insoutenable pour la planète. Bienvenue à toutes et à tous. C'est votre magazine de l'environnement sur France Culture, préparé par Anaï Morales, avec l'appui de Sandrine Chaperon, Vanessa Chang, celui des équipes de documentation de Radio France. Émission réalisée par Alexandra Malka, avec à la technique ce soir, Anthony Masson.
Jusqu'à présent, on nous parlait de réchauffement climatique, de 1 degré, 1,5, 2 degrés, mais on ne sait pas ce que ça veut dire.
Je repars bouleversé de cette première session de la CEC.
Dans vos yeux, il y avait des larmes,
il y avait des doutes, il y avait des remises en question.
Les liens, on les crée quand on fait tomber l'armure, et pour le coup, cette session 1 nous a fait tomber notre armure à chacun de nous.
Seul, on n'arrive à rien. On ne sait pas faire.
Et il y avait déjà cette petite graine de révolution qui voulait changer le monde, qui ne voulait pas se laisser faire.
L'organisation de la CEC a réussi à créer en quelques minutes, quelques heures, un collectif extrêmement fort qui nous a donné envie d'avancer tout au long de cette année.
Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'ils vont vraiment jouer le jeu? J'étais vraiment pas sûre. Le monde dans lequel on vit ne fonctionne plus. Vous avez décidé de le combattre et ça me rassure.
Aujourd'hui est le temps des choix drastiques. Que devons-nous garder? Que devons-nous laisser derrière nous?
Alors, témoignage de participants, Éric Duverger, aux formations de la CEC. Vous aurez reconnu cet extrait de vidéo qui nous permet justement, cette vidéo, de restituer un petit peu des paroles de ceux qui ont participé à la CEC. Petit rappel peut-être de ce que c'est concrètement. Vous l'avez lancé en 2020 et on peut préciser peut-être pour nos auditeurs que votre choix s'est fait alors que vous étiez justement dans ce monde de l'entreprise. Vous avez passé 22 ans, si je ne m'abuse, chez Michelin. Et vous avez été aussi formé à l'ESCP Business School. Donc voilà, vous connaissez bien ce monde-là, cet univers-là.
Je le connais bien et c'est vrai que j'ai cheminé dans une carrière, dans un grand groupe pendant plus d'une vingtaine d'années. Donc ça m'a permis d'avoir un regard en fait de l'intérieur. Et on est très nombreux dans l'équipe de la CEC, de la Convention, à venir du monde de l'entreprise. Et c'est vrai que cette pertinence, cette compréhension, c'est important pour se poser la question, c'est comment transformer ce monde économique, ce monde de l'entreprise, et lui donner envie de montrer qu'une autre économie est possible, une économie qui va régénérer les écosystèmes et sortir de l'extractif, du linéaire qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc c'est un vaste défi et on essaye d'utiliser aussi les codes de ce monde-là pour l'attirer finalement vers ce nouveau modèle.
Donc de grandes ambitions et puis tout cela aussi dans un système Terre en crise hein, avec 6 des 9 limites planétaires qui sont déjà dépassées et cette urgence dont on parle régulièrement. Votre but, hein, Éric Duverger, c'est donc de faire que les entreprises deviennent régénératives, c'est-à-dire préservent mais aussi renforcent les écosystèmes, c'est ça ?
Oui, c'est ça et c'est vrai, c'est très important ce que vous venez de dire, le système Terre est en crise. Et je crois qu'on aura des témoignages ce soir. Cette prise de conscience, en fait, c'est le préalable à l'action. Et en fait, on est très nombreux à l'oublier et à pas se rendre compte, en fait, que cette crise nous emmène sur une trajectoire qui peut être catastrophique. Et donc, sans être catastrophiste, il faut quand même être lucide par rapport à cette crise. C'est comme ça qu'on commence nos parcours. Et c'est le préalable, effectivement, à la transformation. Et une transformation qu'on veut quelque part radicale, ambitieuse, parce qu'aujourd'hui, plein d'entreprises font plein de choses, mais ça ne suffit pas et les courbes ne s'inversent pas. Et donc, il faut vraiment faire beaucoup plus et c'est ce sursaut qu'on veut provoquer.
Donc avec la CEC, on va le comprendre hein, au fil de l'émission, comment ça fonctionne, ce qu'on propose et comment cette formation finalement s'établit sur une année, mais avec à peu près quoi 12 jours hein, sur une année étalée, c'est ça ?
Exactement, c'est 12 jours sur un an et pour un dirigeant, une dirigeante d'entreprise, c'est beaucoup, beaucoup de temps qu'on leur demande.
Et on peut préciser que plus de 1000 entreprises ont déjà participé à la CEC. En tout cas, c'était le chiffre fin 2024.
Oui, exactement. On se dirige vers plus de 1000 entreprises et on a à chaque fois 2 participants. Donc, c'est 2000 dirigeants en position de transformer les choses, des leaders aussi qui participent à ces parcours. Et on espère que tous ensemble, collectivement, ils vont proposer quelque chose qui va faire basculer toute l'économie.
2 participants par entreprise ?
Exactement.
D'accord.
Le dirigeant.
De tous les secteurs et toute taille d'entreprise ?
Alors, on a vraiment toute taille d'entreprise, de quelques employés à plus de 1000 employés, de quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires à plusieurs milliards de chiffre d'affaires. Et c'est cette diversité aussi, des tailles et des secteurs et toutes les régions de France aussi. C'est vrai que c'est très très riche. C'est ça qui a sans doute donné une expérience marquante aussi pour chacun des participants.
Alors on va le comprendre, une initiative unique et indispensable. Cécile Renoir, il y a une responsabilité du monde de l'entreprise et du commerce, mais elle n'est pas encore suffisamment consciente.
Oui, et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que vient dire Éric Verger, aussi à l'origine du campus, il y avait vraiment cette expérience faite par des personnes qui ont aidé à fonder le campus autour...
Donc le campus de la transition, fondé en 2018, il faut dire où
Alors il est ancré à Forges, dans un petit village de Seine-et-Marne.
Exactement.
Voilà, avec l'idée justement de pouvoir accueillir des personnes et de donner à vivre une expérience qui permette de se reconnecter à soi, à la nature, au territoire, à la spécificité des territoires. Et donc, nous sommes dans le Grand Paris, un petit village de 400 habitants, à 3 km de Montereau, une ville de 20 000 habitants, avec beaucoup d'enjeux, et donc c'est de diverses natures. Et donc, c'est extrêmement intéressant d'être là pour essayer justement de favoriser une réflexion sur les changements, notamment des modèles économiques, pour en invoquant ce que j'appelle la responsabilité systémique de l'entreprise. Et on est plusieurs là dans l'équipe qui a co-fondé le campus à avoir essayé de travailler là-dessus. C'était avec des personnes qui sont en entreprise, soit dans le monde de la grande entreprise, soit dans le monde de l'entreprise sociale et solidaire, et qui se disaient, mais au fond, comment on aborde les questions de responsabilité, pas seulement sous l'angle de la RSE, au sens où on l'entend assez généralement comme des bonnes pratiques qui peuvent être assez dispersées et très marginales au regard de ce qui se vit avec les enjeux de cœur de métier de l'entreprise. Et du coup, parler de responsabilité systémique, c'est dire c'est autant les enjeux de responsabilité économique et financière et politique que les questions de responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Et quand on parle, et ça je pense que ça rejoint bien toutes les réflexions de la CEC, responsabilité économique et financière, c'est se dire quels sont les choix d'investissement. Est-ce que ce qui nous permet de créer de la valeur pour la partager, au sens de valeur économique et financière, finalement, est-ce que les ingrédients du gâteau collectif à faire grossir, ils ne nous empoisonnent pas? Et donc, c'est vraiment se dire à quelles conditions on crée cette valeur et comment est-ce qu'on respecte ces frontières planétaires, tant sociales qu'environnementales. Et du coup, ça invite à regarder les enjeux aussi bien de fiscalité que de comptabilité, que d'écart de rémunération dans l'entreprise et au long des chaînes de valeur. Et ça pose la question de la responsabilité politique et j'allais dire culturelle aussi des dirigeants et du type de société qu'on crée ou auquel on contribue quand on met à disposition de clients, de consommateurs, tel ou tel type de produits et de services.
Bien sûr. Voilà. Alors Sophie Robert-Velu, justement, en entendant les propos de Cécile Renoir et sur ces questions de responsabilité du monde de l'entreprise et du commerce, vous êtes en plus dans un secteur où vous parlez concrètement d'une responsabilité augmentée, parce que le public, ce sont les enfants.
Oui, l'entreprise, elle a été créée en 1950 avec la marque Mustela, effectivement. Donc, c'est sûr que quand on fait des produits destinés aux soins des bébés, dès leur naissance, dès le premier jour de la vie, il y a une incompatibilité presque quotidienne à se lever le matin quand on sait, finalement, qu'à chaque fois qu'on produit un produit, il va y avoir un gaz à effet de serre qui va être émis, il va y avoir du plastique qui va être rejeté dans la nature, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vit, et je ne le vis pas toute seule d'ailleurs, parce qu'on a justement travaillé avec toutes les équipes suite à la CEC à une sensibilisation forte.
Et vous avez été nombreux à être formés, parce que Éric Verger disait 2 personnes, mais vous étiez combien?
Alors nous, on était 2 aussi, puisque le principe, c'est vraiment d'avoir un dirigeant 2. Et ce qu'ils appellent le Planet Champion, qui est vraiment la personne plutôt en charge d'appliquer le plan RSE. Nous, on avait déjà une directrice de la RSE dans notre entreprise depuis de nombreuses années, donc elle était déjà très au fait des choses. Moi aussi, je pensais savoir, d'ailleurs. Et puis, en fait, je pense que toutes les deux, on a compris qu'il fallait radicaliser notre point de vue au sens d'aller traiter les problèmes à la racine. Et effectivement, derrière ça, j'ai eu la directrice marketing de Mustela à l'époque qui s'est engagée en bénévole et qui aujourd'hui fait partie des organisateurs de la nouvelle CEC sur les nouveaux imaginaires, donc plutôt pour le monde de la culture et de la production cinématographique, télé, etc., et médias. Et puis, on a surtout fait la fresque du climat à nos 1100 salariés. On a travaillé avec eux en co-construction sur le plan d'action suite à ça. Donc oui, l'intégralité de l'entreprise aujourd'hui se lève le matin et challenge, met au défi l'entreprise de donner du sens, de l'utilité et de se transformer.
Est-ce que c'est facile d'en discuter, Sophie Robert-Velu, avec d'autres dirigeants de ce monde de l'entreprise?
Alors moi, en général, quand j'aborde le sujet, que ce soit avec d'autres dirigeants, avec des banquiers, avec des partenaires qui pourraient avoir un doute, Déjà, je m'assure qu'on parle le même langage et qu'on a un constat commun. Sinon, c'est compliqué d'aborder ces sujets avec des gens qui sont soit climato-sceptiques, soit peu en connaissance de cause. Donc, la première chose qu'on fait, nous, quand on a des nouveaux partenaires, c'est vraiment, ou des clients, ou des fournisseurs, c'est de travailler sur une sensibilisation collective pour s'assurer déjà qu'on est d'accord avec le constat des limites planétaires.
Et sinon, vous ne faites pas d'accord, quoi. c'est ça, c'est compliqué. Pas
oui,
de contrat.
Oui, non, mais par exemple, on a fait une journée complète là, de sensibilisation de nos fournisseurs clés et on leur a demandé de s'engager, de signer une charte, etc. Et derrière, de travailler à la modification de leur scope sur le carbone, mais aussi plus de traçabilité sur les matières premières. Donc oui, effectivement, ça fait partie de nos contrats. Nos distributeurs à l'étranger, par exemple, ont une clause RSE assez précise. On leur a demandé d'arrêter le fret aérien, par exemple. Ça n'a pas été simple, hein. Mais oui, ça fait partie de la manière dont on monite notre business, ouais. De travailler avec des partenaires avec lesquels on sent qu'il y a une volonté ou au moins une prise de conscience. Après, ça m'arrive de travailler, de discuter de ces sujets avec des gens que je ne choisis pas, pas forcément des partenaires. Et là, je pense que la meilleure manière d'aborder les choses, c'est quand même de leur parler de leurs responsabilités. Et pas au sens d'être gentil avec les oiseaux ou les insectes, hein. C'est pas une question de morale, en fait, pas du tout. Pour moi, il y a deux enjeux qu'on a vraiment captés à la CEC assez vite dès la première session. La première, ça a été que on a une responsabilité d'être à la hauteur de ces enjeux, ne serait-ce que si on a des enfants, en fait, juste d'être en compréhension de... Pendant notre vie à nous, moi j'ai 45 ans aujourd'hui, je sais que pendant ma vie à moi, je vais assister à une dégradation du mode de vie en France. C'est pas à l'autre bout de la planète que ça va se passer. Donc déjà cette idée de dire le modèle économique tel qu'il est, qu'il a été construit depuis peu de temps finalement, 70 ans à peu près, avec l'hyperfinanciarisation, fait courir un risque aux futures générations et même à notre fin de vie. Et la deuxième chose, c'est que vous êtes chef d'entreprise, mais vous n'êtes pas un bon chef d'entreprise si vous n'anticipez pas toutes les crises que vous allez avoir auxquelles vous allez faire face finalement. On l'a un peu vécu ces dernières années avec le Covid, le confinement, la guerre en Ukraine, l'hyperinflation. Il y a eu une désorganisation énorme du commerce international. Les entreprises ont vraiment paniqué finalement, se rendant compte que oula, bah, il suffit qu'il y ait un bateau qui se mette en travers du canal de Suez pour qu'il y ait 3 mois de retard sur toutes les livraisons. Donc
ou
un business
un méchant
qui
virus, comme on dit. Pour,
exactement. Et finalement
maintenir les avions au sol.
Et finalement, mon discours en général auprès de ces chefs d'entreprise, c'est de dire mais si tu penses que ça va s'améliorer, si tu penses que le contexte va s'améliorer, tu te fourres le doigt dans l'œil. Et je pense que en tant que chef d'entreprise, t'as la responsabilité finalement de préparer, d'anticiper les crises, de cartographier tes risques et tes dépendances. Et le dérèglement climatique, notamment, ou la chute des espèces et du vivant, va faire partie des gros problèmes que tu vas avoir à gérer pour ton entreprise.
Alors Éric Duverger, pour bien comprendre justement, parce qu'on voit et on entend Sophie Robert-Velu qui nous explique aussi qu'elle ne partait pas de rien, mais en même temps il y a eu ce déclic. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour qu'il y ait justement ce déclic? C'est-à-dire, ces chefs d'entreprise, ils arrivent, ils subissent quoi chez vous à la CEC?
Alors c'est vrai que on va résumer en deux mots. C'était une dirigeante lyonnaise qui disait la CEC c'est la claque et le bisou. La claque, on en parle beaucoup. Et les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat, d'où vient mon aspiration, avaient parlé d'une claque. C'était Valérie Masson-Delmotte qui était venue leur parler et la claque climatique. Et c'est vrai que on a assumé ça. Donc c'était un parti pris. Qui a été d'avoir une session, et d'ailleurs c'est Valérie Masson-Delmotte qui l'a ouverte, sur le climat mais aussi sur toutes les limites planétaires. Et on allait jusqu'au bout du constat pendant un jour et demi. Et c'est vrai jusqu'à la nausée quasiment de « mais c'est ça qui est en train de se passer » avec aussi des économistes qui ont pu dire « ben vous êtes chef d'entreprise, ce qui est en train de se passer, voilà ce que ça veut dire sur faire du business dans 20 ou 30 ans ». Avec aussi une projection de film, donc l'art a été présent, et aussi une intériorisation de ça. Donc on est passé du cerveau, puisqu'il y avait beaucoup de graphiques, de scientifiques, et aussi une intériorisation pour chaque personne. C'est pour ça qu'au tout démarrage, on a eu un témoignage d'un dirigeant marseillais qui disait, c'est Nicolas, qui disait « vous nous avez fait tomber l'armure ». Les dirigeants d'entreprise, ils ont une armure. Ils se forgent une armure, en fait, durant toute leur vie, parce qu'ils vivent des crises, ils ont énormément de pression, de charge mentale. Et donc, voilà, c'est ce double effet des scientifiques et puis d'un design pour qu'ils aient le temps d'intérioriser qui a fait qu'il y a quelque chose, il y a eu un clic pour eux. Ils se sont dit, ah non, il y aura un avant et un après. Ils sont beaucoup à dire, il y a eu un avant et un après de cette première session. Et c'est vrai qu'on ne s'est pas arrêté là. parce qu'on avait quand même prévu qu'on ne pouvait pas les laisser comme ça, finalement, dans ce désespoir qu'on peut ressentir ben oui. aussi. Et donc, c'est là où le bisou, c'est finalement de faire une proposition et d'emmener le collectif vers ce qu'on appelait un nouveau cap.
Le sursaut et le projet.
Et le sursaut vers quoi ? Et assez vite, on a dit, en fait, le vers quoi, c'est nous qui allons le dessiner ensemble. Et c'est une nouvelle économie. Cette économie, elle est possible. Et on l'appelle l'économie régénérative. Donc c'est à ce moment-là, finalement, il y a ce double mouvement. Et on garde cet élan, ensuite, tout au long du parcours. Et je dirais que finalement, il y a aussi un point d'orgue qui est ce point d'arrivée où ils remettent une feuille de route. On essaie de faire ça de manière assez solennelle. Ça les engage, ça les oblige. Et cette feuille de route, elle réconcilie, en fait, la pérennité économique de l'entreprise, les limites planétaires et puis les enjeux sociaux. On sait que ça viendra aussi ensemble.
Bien sûr.
Et après, on ne les lâche pas pour qu'ils les mettent en place vraiment sur le terrain.
Donc, en tout cas, des plénières, des ateliers, des camps de base, tout cela, c'est proposé à ces dirigeants et dirigeantes, avec une méthodologie, bien sûr. Cécile Renoir, on voit que l'idée, c'est de questionner, en fait, le métier, hein, déjà, la responsabilité aussi, et de questionner l'utilité des produits, leur impact, alors sur le climat, la biodiversité, la santé, parce qu'il y a quand même les questions de pollution, questionner toutes les phases du processus de fabrication, de la conception à la commercialisation, etc. C'est toute une chaîne, donc c'est vraiment, on prend son cerveau et puis on en prend un autre, quoi. Quelque part, on est un peu là-dedans. Comment vous voyez ça ? C'est-à-dire qu'on se dit, mais pourquoi est-ce que cela, c'est pas, quand même, dorénavant, enseigné dans les écoles de commerce ou accompagné dans les chambres de commerce ? Ça peut étonner aussi, parce qu'il y a un tel niveau d'urgence. Est-ce que vous diriez que là aussi, il y a quand même un travail à faire ? Vous le faites, mais vous n'êtes pas très nombreux non plus.
Oui, alors il y a quand même eu le groupe piloté par Jean Jouzel et Luc Abadie pour réfléchir aux transformations nécessaires dans l'enseignement supérieur.
Ce qui a donné un livre blanc d'ailleurs, voilà. Mais bon, où en est-on pour l'instant ?
Voilà, alors bon, il y a une obligation normalement pour toutes les universités, les écoles à former les étudiants au niveau licence aux enjeux de la transition écologique et sociale. Voilà, une demande aussi pour tous les nouveaux doctorants et autres. Alors, on est en train de voir comment mettre ça en place. C'est vrai qu'il reste énormément à faire et pour ce qui concerne les cursus dans les écoles de commerce ou dans les IAE ou autres sur les questions économiques et financières, c'est vrai qu'on est, c'est ce que vous avez dit l'un et l'autre, on est dans un monde dans lequel beaucoup de choses ne vont pas dans le sens du respect de ces frontières planétaires. Et donc, il faut arriver à trouver des moyens d'embarquer en traitant les problèmes à la racine. Alors aussi, au campus, on aime bien dire qu'on essaye d'être radicaux, non marginaux, c'est-à-dire prendre les problèmes à la racine, les décortiquer. Et c'est bien ce qu'il faut du point de vue de l'économie. Mais les acteurs économiques sont aussi pris dans des contraintes d'un monde qui avance pas toujours dans le bon sens. Et donc, nous, on essaye de réfléchir aux façons qui vont permettre peut-être parfois à des acteurs de faire un pas de côté pour essayer d'éviter d'être juste dans des dialogues de sourds. Et alors, je peux dire un petit mot de la manière dont on a conçu le manuel de la grande transition, qui était avec cette idée de faire passer tous ceux qui lisent l'ouvrage, mais aussi tous ceux qui participent à nos formations ou qui trouvent que cette approche par les 6 portes est intéressante. Donc, on a construit des parcours qui peuvent être multiples, qui font en sorte qu'on s'intéresse au diagnostic, c'est ce que vous avez dit, c'est le point de départ et la claque pour beaucoup, se dire réaliser à quel point c'est grave et urgent de réfléchir pour agir différemment, mais d'avoir accès aux bonnes données. Et donc ça, c'est bon, ce qu'on appelait dans notre... on a utilisé des termes grecs, oikos, le diagnostic, puis on passe à l'aiguillon éthique, parce qu'évidemment le diagnostic, il pose des questions sur l'inégalité, les inégalités aussi à travers la planète, les inégalités dans les efforts qui sont demandés. Moi, il y a un chiffre que je redonne régulièrement parce que je trouve qu'il est tellement évocateur de nos défis, c'est que les 10% les plus riches en Amérique du Nord ont une empreinte carbone de 73 tonnes par habitant et par an. On est à peu près à 30 tonnes par habitant et par an en Europe. Et les 50% plus pauvres en Afrique subsaharienne ont une empreinte carbone de 500 kilos, une demi-tonne. Donc on voit bien qu'il y a aussi toutes ces aspirations légitimes pour les populations les plus vulnérables des pays des Suds,
des inégalités,
avoir accès à de l'énergie, à des biens et services de base. Et du coup, ça veut dire cet aiguillon éthique, Qu'est-ce que ça veut dire du point de vue des responsabilités de différents acteurs? Et là, on arrive à notre troisième porte, qui est la porte Nomos, la question justement des règles du jeu, des métriques qu'on utilise, des instruments de gouvernance. Et ça, ça veut dire, ben voilà, est-ce que les normes comptables, est-ce que le système comptable aujourd'hui, est-ce qu'il est suffisant? Là, on reparlera peut-être des enjeux de simple et double matérialité, mais voilà, du point de vue structurel, on a des métriques qui ne sont pas à la hauteur. On a la question des réglementations à changer pour harmoniser ces règles du jeu. Et puis, on arrive à la quatrième porte, qui est celle des imaginaires, en disant, mais au fond, on voit bien, alors nous, j'aime bien parler un peu le bâton et la carotte, c'est-à-dire on a besoin de normes qui nous obligent, mais on ne peut pas embarquer des populations entières et des entreprises et des acteurs uniquement par les normes et les réglementations. Il faut aussi susciter le désir d'avancer ensemble, et ça, je pense que c'est ce que vous faites dans votre entreprise, et avec tous ces dirigeants. Et donc, notre porte, logo, c'est vraiment travailler aussi sur ces imaginaires différents. Puis j'arrive à praxis, qui est la question de la pratique et des acteurs, des échelles de l'action, et aussi le fait de réaliser qu'aucun acteur seul n'a les clés de la transformation, et que ça implique qu'on travaille ensemble, donc faire vivre ces coopérations. Et enfin, la dernière porte, dynamis, qui a donné le mot dynamique, c'est qu'est-ce qui nous meut de l'intérieur, qu'est-ce qui nous permet de nous nourrir, alors ça peut être d'un point de vue plus artistique, esthétique, mais aussi spirituel, la question du sens, et pour lutter à la fois contre l'éco-anxiété, contre parfois le sentiment d'impuissance ou de découragement, et se dire que voilà, on a les uns et les autres pleins de forces vives qu'on peut mobiliser ensemble. Voilà, et donc ce parcours, il peut être ensuite déployé en regardant de près ce qui se passe dans l'entreprise pour essayer d'embarquer des acteurs qui n'ont pas forcément la même porte d'entrée.
Sophie Robert-Velu.
Moi, il y a deux choses dans ce que vous m'avez dit qui m'ont rappelé un chiffre que j'ai trouvé aussi extrêmement intéressant. C'est Éloi Laurent, je pense, dans Sortir de la croissance ou un truc comme ça, qui a sorti ce chiffre. Mais le 85% de la croissance du PIB américain entre 1993 et 2018 a été captée par 10% les plus riches aux États-Unis. Donc c'est un mythe de penser qu'on a besoin de croissance pour que la majorité de la population aille mieux. Déjà, c'est quand même important de se le dire, parce que je pense que là, il y a un gros sujet. Et ensuite, effectivement, c'est cette notion de boussole. Alors, vous ne l'appelez pas boussole, mais c'est vrai qu'à la CEC, on a travaillé sur cette nouvelle boussole. Qu'est-ce qu'on compte dans l'entreprise? Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on mesure? Et donc ça, c'est un des premiers apprentissages qu'on a eu. Je pense que ça devait être en session 3 ou quelque chose comme ça. Mais c'est une fois que vous avez compris le constat dont on parlait tout à l'heure, une fois que vous avez remis en question l'utilité de votre entreprise, parce que ça vient assez vite finalement, pourquoi je me lève le matin, est-ce que ça a du sens finalement? Donc cette notion de se dire, ok, si l'entreprise dans laquelle je suis cessait d'exister demain, est-ce que ça changerait la vie des gens en mal ou en bien? Donc à partir du moment où vous avez remis du sens, et ça peut prendre du temps, et ça doit pas être
et donc pris une claque,
rapidal, eh bien il faut revenir sur cette boussole. C'est qu'est-ce que je compte d'entreprise? C'est quoi ma définition de la performance? Si ma performance c'est exclusivement la croissance en volume, par exemple, je ne serai jamais compatible avec les limites planétaires. Donc assez vite, ces premières entreprises qui ont fait la CEC de la première période, on s'est dit, mais comment faire? C'est-à-dire que est-ce que c'est possible de continuer à opérer une entreprise qui n'a plus de croissance ou qui n'a pas de croissance volumique? Est-ce que ça va créer de l'hyperinflation? Comment ça va se passer, etc. Donc, il y a énormément de questions qui se posent. Après, moi, je pars du principe qu'on n'a pas toutes les réponses, mais qu'en revanche, si on commence par changer nos pratiques, et donc, effectivement, dans notre entreprise, très vite, on s'est pris ce sujet de dire, je vais compter aussi bien les euros que le carbone. Sur la biodiversité, on a commencé par se dire, déjà, qu'est-ce qui existe comme outil? Et c'est très complexe. Donc, on a fait notre bilan de dépendance, déjà, à la biodiversité. Et dans mon entreprise, on est dépendant à 97% à la biodiversité, et tout particulièrement aux zones climatiques les plus fragiles, qui sont les zones tropicales.
D'accord.
Et toute la cosmétique, c'est un peu ça. Donc, déjà, votre business cessera d'exister dans pas très longtemps si vous changez pas vos approvisionnements. Et puis ensuite, effectivement, sur le carbone, on s'est vraiment dit, il faut qu'on soit capable de compter aussi bien l'euro que le carbone, et ensuite de faire des choix. Et parfois, on va choisir le carbone. Et ça, c'est un énorme changement de mentalité dans notre équipe au quotidien. C'est des métiers qui doivent changer. C'est même des comportements des gens qui ont été commerciaux à l'export. Et on leur dit, y a un retard dans la livraison de tel produit. Tu vas devoir appeler ton client et lui expliquer que son produit aura non pas 2 jours de retard, mais 4 semaines. Parce qu'en plus, on ne lui envoie pas en avion. Mais c'est vraiment pas facile, en fait. Il y a des gens qui disent, mais comment mais... Et donc, on leur simplifie pas du tout la tâche. Donc, s'il n'y a pas, justement, cette prise de conscience et cette motivation forte, déjà, vous partez perdant. Mais même quand vous avez ça, eh ben, leur quotidien est plus complexe. Donc, il faut accompagner ça avec des mesures.
Et, quels ont été, chez vous, les choix draconiens ou les plus difficiles à prendre?
Alors c'est assez systémique, hein. Donc je sais que beaucoup de gens parlent de l'abandon d'une partie de notre business autour de la lingette chez Mustela, qui faisait il y a 2 ans 20% de notre chiffre d'affaires en France.
Oui, ça vous y avez renoncé.
Oui. On a annoncé qu'on arrêtait en 2027, que ce soit clair. J'ai besoin de temps pour.
Parce que c'est important de dire, il faut aussi du temps, même si on n'a plus beaucoup de temps, et on pourra aussi parler des aides, parce que tout faire soi-même, c'est compliqué, et être soutenu aussi.
Alors, la loi sur les objets à usage unique, donc type lingette, nous imposera de les arrêter en 2040. Bon, donc en fait, en 2040, je pense qu'il sera fort probable qu'on n'arrive même plus à les produire. Donc, on a décidé d'anticiper cette réglementation, effectivement, et on a calculé finalement en combien de temps, le plus rapidement possible, on serait capable de les arrêter. Et donc, c'est 2027, et donc on se prépare. Mais c'est un exemple parmi d'autres. La première chose qu'on a faite, ça a été des choses toutes simples, mais interdire le fret aérien, par exemple chez Mustela, nous a permis de baisser drastiquement nos dépenses carbone. À interdire le fret aérien de nos clients, donc qui sont responsables de leur fret, a été plus long, mais finalement on a réussi à le faire. Mmh. Et là, pour la première fois cette année, on vient d'avoir notre bilan carbone sur l'année 2023, on baisse enfin en valeur absolue nos émissions.
Oui, parce qu'il faut préciser que votre ambition vous pousse à entrer aussi dans la catégorie des entreprises à mission.
Alors, on est société à mission depuis 2021. La même année, en fait, qu'on a fait la CEC, on a décidé de s'équiper, finalement, d'une structure juridique un peu différente. La société à mission, ça vous permet d'intégrer d'autres objectifs que celui du pur profit dans votre entreprise. Et ça vous oblige, donc, à changer vos statuts. Et derrière, on se met un comité de mission qui est indépendant, autonome, et qui va, finalement, vérifier qu'on se donne les moyens, mais aussi qu'on a des objectifs qui sont réellement réalisés chaque année, un peu comme des commissaires aux comptes qui vont valider ou pas vos comptes.
Remarquez, il faut bien qu'il y ait un contrôle quand même, parce que dans la société telle qu'on la vit, en général, pas de contrôle, ça peut...
Exactement. Alors après, c'est nous qui fixons nos objectifs, donc on peut toujours se dire, donc il y a peut-être des sociétés à mission qui vont se fixer des objectifs un peu souples. Néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, c'est une bonne gouvernance d'avoir ce tiers, finalement, de confiance qui va contrôler ça et va nous pousser aussi, nous donner des idées, être un bon sparring partner. Mmh.
Donc, ça veut dire chercher des alternatives. Et nous avons une question de notre réalisatrice. Est-ce qu'il y a des alternatives aux lingettes?
Ça, c'est la grande question, parce que c'est vrai qu'on s'est fixé comme mission chez Mustela d'aider les parents à élever en bonne santé leurs enfants sur une planète en bonne santé. Mmh. Et donc, si vous voulez soutenir les parents, finalement, la première question qui s'est posée, ça a été, mais est-ce qui sont d'accord pour qu'on les arrête? Non, ils ne sont pas d'accord. Ça, c'est très clair. On a fait énormément d'ateliers de co-conception avec des parents qui, globalement, nous disaient « Non, mais laissez tomber. De toute façon, il n'y a rien qui pourra être aussi pratique qu'une lingette. » Et donc, un des gros pans de notre transformation, au-delà de l'arrêt des lingettes, ça a été de rentrer dans un portefeuille plus sobre et de chercher à être systématiquement dans l'utilité. Et donc, c'est s'interdire certains produits. C'est s'interdire certains nouveaux produits parce qu'en fait, on pense qu'ils ne servent à rien, même s'il y a un énorme business derrière. Mmh. Et il y en a plein, énormément de produits qui ne sont même pas recommandés par les professionnels de santé, notamment pour le nouveau-né, et qui créent énormément de parts de marché. Donc moi, j'ai des pays, des fois, qui me disent « Est-ce qu'on pourrait lancer ça ?» Je dis « Non, ça ne sert à rien. On ne va pas lancer un truc qui ne sert à rien. » Voilà. Donc, effectivement, il y a une utilité aux lingettes dans le sens où elles apportent de la praticité, du gain de temps. Mais ça on n'estime pas aujourd'hui que chez Mustela, on puisse continuer à fournir des produits qui vont porter préjudice à l'avenir de ses enfants. Voilà. En revanche, on peut passer à des lingettes lavables. Alors, est-ce qu'on doit, nous, devenir des producteurs de gants de toilette? Je pense pas. Donc, on se dit plutôt qu'on va arrêter toutes les lingettes, puis qu'en revanche, on va donner des idées aux parents. On va leur dire, tiens, tu peux récupérer un vieux drap, le découper. Oui, ça fait des lingettes. Certes, quand vous vous déplacez, ce sera plus compliqué. Donc, on se donne aussi 3 ans pour essayer de travailler à des solutions simples, sobres, pour pas laisser effectivement les parents dans une situation complexe.
En même temps, les lingettes sont arrivées sur le marché il y a longtemps.
Je dirais que ça fait une trentaine d'années et ça fait dix ans que ça se déploie très très fortement. Mais même les lingettes ménagères, par exemple, se développent énormément et c'est quand même dans le top 5 des polluants qu'on trouve en Méditerranée.
Petit point rapide, puisqu'on a parlé quand même de normes, et il y a la RSE, hein, donc la responsabilité sociale et environnementale, hein, qui s'impose normalement aux entreprises. Après, chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Est-ce qu'on peut, entre vous, Éric Verger et Cécile Renoir, faire un rapide topo, c'est-à-dire est-ce que ça marche ou c'est plus du greenwashing qu'autre chose ?
En fait,
compliqué à dire.
Ouais, ce que j'aimerais dire en fait, et je voulais réagir à quand on écoutait Sophie, parce que je suis sûr qu'il y a dans nos auditeurs des dirigeants d'entreprise ou des personnes qui sont en entreprise et qui se disent mais elle est sur notre planète. Parce qu'en fait, le jeu de contraintes avec lequel tu travailles maintenant est extrêmement complexe. Et finalement, le législateur n'a pas forcé à prendre toutes ces décisions et à prendre des décisions carbone et pas seulement sur optimiser les profits. Donc le paradigme que tu mets en œuvre dans ton entreprise et sans doute le paradigme dont le monde a besoin si on veut avoir une économie dans les limites planétaires. Mais aujourd'hui, c'est complètement exceptionnel. Et donc, il faut aussi se le dire qu'il y a très peu de dirigeants d'entreprise qui se rentrent dans ce jeu de contraintes, qui acceptent finalement de se compliquer la vie qui est déjà pas simple aujourd'hui. Et
combien à peu près sur les entrepreneurs passés par la formation?
La CEC, je dirais que, Sophie, nos porte-drapeaux, c'est à peu près 15-20% qui vont jusque-là, même d'accord. Si tous montent vraiment les curseurs par rapport à ce qu'ils faisaient en RSE classique,
oui.
Je dirais.
Oui.
Et après, ils sont déjà ceux-là, ceux qui ont accepté de consacrer 12 jours à la planète, c'est déjà une petite frange. Donc voilà, il faut qu'on se le dise, parce que malheureusement, si on parle de normes ou de normalité,
il faut monter en gamme et se donner le temps.
Aujourd'hui. Oui. Et en fait, le monde aura changé si on a des milliers de Sophie, de dirigeantes, comme ça, dans 5 ans, et on n'a pas deux générations d'écoles de management pour faire des nouveaux dirigeants. On n'a pas 40 ans devant nous. Hein. C'est ça aussi l'urgence. Et ce nouvel imaginaire aussi. En fait, l'imaginaire dans lequel moi j'étudie en école de commerce, c'était aller dans une grande banque, faire du marketing dans une boîte prestigieuse, avoir un gros salaire. C'était ça l'imaginaire de succès à l'époque. Maintenant, ce qu'on veut, c'est un imaginaire de succès. Et je vais laisser Cécile rebondir, mais un imaginaire de succès où le dirigeant qui se met ce jeu de contraintes et qui réussit dans ce jeu de contraintes est vu comme un héros pour la société. Il faut voir aussi que dans l'entreprise, ça crée une énergie aussi vraiment phénoménale parce que là,
une autre ambiance, une dynamique.
Ils trouvent du sens et ils acceptent. Et il y a beaucoup à gagner aussi de faire ce pari-là.
En bien-être.
Responsabilité.
En bien-être humain, c'est ça, et social. Oui. Cécile Renoir, rapidement, donc sur la RSE, je crois que vous avez travaillé notamment sur les entreprises du CAC 40.
Oui. Alors, quand même, historiquement, la RSE a été comprise, en gros, jusqu'en 2011, comme ce qu'une entreprise faisait au-delà de ce qui est prévu par la loi. Et puis la Commission européenne a donné une définition de la RSE pour dire c'est la maîtrise par une entreprise de ses impacts. Et là, c'est un vrai changement de paradigme parce que ça rejoint vraiment ce que vient d'évoquer Sophie. C'est-à-dire que potentiellement, les impacts, ils s'arrêtent pas aux salariés, c'est les chaînes de sous-traitance. Et ça veut dire cartographier toutes les conséquences du cœur de métier de l'entreprise sur des parties prenantes, des territoires, les générations futures, etc. Ça va très loin. Et du coup, c'est ça qui a donné quand même lieu ensuite à la loi sur le devoir de vigilance en France en 2017, puis la loi Pacte avec la possibilité de devenir entreprise à mission. Alors, moi, toujours la grande question, c'est on se dit, ben voilà, il y a un certain nombre de choses, mais la réalité, c'est qu'il faudrait changer les règles du jeu. Et c'est pour ça que j'évoquais cette notion de responsabilité systémique en remplaçant le S de social, sociétal, environnemental par systémique. Et il me semble que ce que Sophie vient de décrire, c'est exactement ce souci-là et dans lequel il y a vraiment cette question de la responsabilité politique de l'entreprise et notamment des dirigeants. Et moi, je pense que là, il y a une vraie question, c'est de savoir comment des dirigeants, et c'est pour ça que c'est formidable qu'il y ait la CEC, voilà, ce qu'on peut faire à petite mesure au campus et dans plein d'autres initiatives pour essayer de faire en sorte de renforcer ce rôle politique parce que ben voilà, on voit bien que les entreprises, les grosses entreprises sont quand même maîtresses dans l'art d'éviter que des réglementations qui les contraignent d'une manière qui, à court terme, leur semble défavorable passe. Et on voit bien comment, ben là, tout récemment, on a la directive européenne sur le devoir de vigilance qui vient d'être retoquée entre
le 28 février
les pays
dernier,
européens.
Voilà.
Et ben, c'est symptomatique, en fait, de cette vision très court terme alors qu'il y a d'énormes défis à relever et qu'il y a des choses à faire, qu'il faudrait beaucoup mieux se dire, mais voilà nos contraintes planétaires et comment est-ce qu'on s'organise collectivement pour prendre les choses différemment. Et donc harmoniser ces règles du jeu de façon aussi à faire en sorte qu'on ne soit pas pénalisé quand on essaye précisément de faire en sorte de respecter ces frontières. Donc la question RSE, en incluant les questions de responsabilité politique et puis les questions justement de comptabilité notamment, c'est ce que vous évoquez aussi,
bien sûr.
C'est absolument clé. Et de se dire, si on ne joue pas là-dessus, en fait, les changements risquent d'être cosmétiques, c'est le cas de le dire, au sens très insuffisant.
Dans le mauvais sens. Sophie Robert-Venu.
Pour aller dans votre sens, ça n'est pas qu'une contrainte et un gain à long terme, en fait. Nous, on a un stress hydrique en Eure-et-Loire, où on a notre centre de production, donc pas très loin de Rambouillet, dans ces coins-là. Ça fait 3 ans maintenant que la préfecture coupe l'eau aux entreprises qui n'ont pas diminué ou qui n'ont pas pris de mesures pour diminuer leur consommation en eau. Il y a des entreprises autour de chez nous qui ont eu 25 jours d'arrêt de production entre juillet et août de l'année dernière. C'est énorme, c'est un mois de production. Donc ça veut dire des gens au chômage technique, etc. et pas de produits à vendre derrière. Chez nous, on a eu une demi-journée de fermeture parce qu'on avait anticipé. Et après, je fais des produits où il y a 70% d'eau du robinet, hein, les gels lavants, les shampoings, tous ces trucs-là. Donc il faut avoir quand même en tête que le jour où il n'y aura plus d'eau, comment on fera pour produire ? Donc, quand on fait une comptabilité en triple capital, ce qu'on commence à faire, nous, chez nous, on se rend compte finalement qu'on met un prix à l'eau, on met un prix au carbone, on met surtout la baisse des ressources dans la balance. Et en fait, c'est pas une question d'être sur une autre planète, Eric. Et il faut jamais dire ce que les autres vont penser. Au contraire, moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que c'est eux qui sont sur une autre planète.
Bien sûr, on veut faire inverser la charge de la preuve.
Exactement.
Alors Éric Duverger, il est aussi sur la planète musique, puisque vous allez nous faire entendre votre choix musical, Éric, c'est I Am Yours de Jason Mraz.
Une chanson pleine d'espoir.
Voilà, et en dehors de cela, autre raison, vous l'écoutez en boucle ou pas?
Oui, et puis aussi cette mélodie, parce que c'est pas facile ce qu'on essaye de faire, on est souvent en galère, donc on a besoin aussi de se remonter le moral.
Le côté entraînant.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement, Aurélie Luneau. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more. Find love, 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 love. Listen to the music of the moment. People dance and sing. We're just one big family. And it's our God-forsaken right to be loved. Love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. There's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Do 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 do. Once I come home, I scooch on over closer, dear, and I will nibble your ear. I've been spending way too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. But my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. But I won't hesitate no more,
no more. It cannot wait. I'm yours. We'll open up your mind.
Et c'était Jason Mraz, I'm Yours, le choix musical d'Éric Duverger, l'un de nos invités, les fondateurs de la Convention des entreprises pour le climat. Et nous continuons justement avec lui, avec Sophie Robert-Velu, directrice générale de Expansion, bien connue pour Mustela, on va le rajouter quand même. Et puis Cécile Renoir, philosophe, économiste, présidente cofondatrice du Campus de la Transition. Vous êtes co-auteur notamment du livre Vers une autre gestion, édité par Les Liens qui libèrent, et on peut mentionner le manuel voilà, de la grande transition chez le même éditeur. Et bien sûr, vous l'aurez compris, c'est la suite de votre magazine de l'environnement sur France Culture. De cause à effet, nous sommes en direct et nous regardons du côté des chefs d'entreprise. Pourront-ils sauver la planète ?
Vous, vous savez mieux que personne, je pense, que l'économie, ça fonctionne en écosystème. Que vous, à l'intérieur de vos entreprises, vous pouvez rien vraiment faire sans vos parties prenantes, sans vos partenaires, sans tous les gens qui travaillent avec vous. On peut pas changer l'économie ou le monde seul. Et c'est justement pour ça qu'on a besoin de vous. Vous allez être nos exemples. L'économie et les règles aujourd'hui, commerciales, financières, internationales, c'est pas des choses immuables gravées dans la pierre à partir d'une quelconque mathématique qu'on aurait décidé irréversible. C'est des choix politiques qui sont basés sur des rapports de force, sur des constats scientifiques et qui sont évolutifs. Et aujourd'hui, grâce à ce que vous avez fait, grâce à ce que vous allez continuer à faire, on a un exemple de plus qui nous montre que les règles avec lesquelles on fonctionne aujourd'hui sont des règles du XXe siècle, qui ne sont pas adaptées aux enjeux auxquels on fait face. Et grâce à vous, on va pouvoir le montrer. Vous avez créé un imaginaire entier dans lequel les entreprises elles-mêmes veulent s'insérer dans un monde soutenable. À ceux qui disent que ce n'est pas possible, on montrera vos réussites. À ceux qui disent qu'il suffit d'une volonté individuelle, on montrera aussi vos échecs et vos difficultés. Et à ceux qui sont à bout, qui disent que ça ne sert plus à rien, on communiquera votre force. Parce qu'on veut vous remercier ce soir de ce que vous avez fait. Mais aussi vous dire que la route va encore être longue et qu'on a besoin de vous pour que vos entreprises, ce soient plus seulement des exemples, ce soit la norme.
Éric Duverger, c'était une prise de parole de...
Donc Léa Falco. Mmh.
À la fin d'une session, en tout cas de formation.
À la fin de la fin, à la cérémonie de clôture de la session 6, au moment où les dirigeants d'entreprise remettaient leurs feuilles de route, leurs engagements, pour leur dire de ne rien lâcher. Et donc c'est vrai que c'est un moment de grande émotion, et en fait aussi un moment un peu solennel, ou ce qu'elle nous a dit là, et c'est vrai que le réécouter là maintenant, ça met aussi en émotion, c'était on attend de vous que vous ne lâchiez pas. Le plus dur commence en fait, et on le sait, on on confirme, les dirigeants le confirment. On avait donné un peu du rêve, et il y avait aussi cet esprit de coopération, en disant le mot écosystème, qui est hyper important, parce que aucune entreprise ne réussira toute seule en silo. On s'aperçoit qu'il faut parler à ses fournisseurs, à ses clients, envisager ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Et de chaîne de valeur en chaîne de valeur, on peut atteindre ce moment systémique où, en fait, tout le monde va se mettre à bouger. On peut espérer que le monde politique aussi se mette à bouger et à aider ceux qui avancent plus vite, parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu isolé. Donc voilà, c'est ça notre scénario de changement. Et on y croit, et il y a quand même très belle énergie qu'on sent dans le pays. Donc on a espoir.
Oui, ouais. Sophie Robert-Velu, vous avez une feuille de route, hein, pas facile, hein, semée d'embûches, on le comprend. Est-ce que dans ce cas-là, il y a d'autres aides qui peuvent venir d'ailleurs? Alors on a cité l'État, peut-être les alumni qui entre eux justement peuvent proposer des aides. Vous pensez à autre chose peut-être?
Oui, je pense aux concurrents. Et, ouais. Et ça, c'est un beau renversement aussi. On a commencé, on parle d'échecs par exemple, bah, on a commencé à faire des machines de vrac en pharmacie en 2020, pendant le confinement d'ailleurs. Et suite à ça, on s'est rendu compte que tout seul, globalement, elles étaient invisibles dans le point de vente. Les gens rentraient dans la pharmacie, le nez sur leur téléphone, et puis ils allaient directement au comptoir où ils prenaient le produit habituel, et puis les pharmaciens n'avaient pas le temps forcément de conseiller, etc. Et donc, on a fait un appel aux concurrents. Et on a réussi à convaincre 5 concurrents qui nous ont rejoints dans un consortium. Et on a ouvert en juillet dernier une première pharmacie. Maintenant, on est à 5 pharmacies avec une vingtaine de produits. Du coup, beaucoup plus gros, ça prend plus de place. Le pharmacien a plutôt intérêt à conseiller les produits parce que sinon, ça ne tourne pas. Et ça marche. C'est-à-dire que là, à plusieurs, on y arrive. Et ce qui est assez marrant, c'est que plein de concurrents à l'époque avaient dit « Non, nous, tu sais, la coopétition, ce n'est pas trop notre genre. » Et en fait, ils lèvent la main maintenant. Donc c'est possible de s'associer à des concurrents parce que ce sujet finalement des limites planétaires, ça peut pas être un sujet de compétitivité. Ça doit être un sujet de survie collective.
En tout cas, ça ne devrait pas.
Voilà.
Éric Duverger, vous tirez quand même vous aussi des bilans, hein, parce que 2020, 2024, voilà, quel constat vous faites? Il y a ceux qui essayent de continuer à respecter leurs ambitions, leurs missions, d'autres qui sont obligés de...
Il y a deux niveaux de constat.
C'est quoi ce qui bloque le plus, les verrous?
Je dirais que d'abord, le premier constat, c'est quand même que nous, on a réalisé un premier parcours avec 150 entreprises et qu'aujourd'hui, en gros, c'est x10 le nombre d'entreprises et ça s'est fait de manière spontanée. Je tiens à rappeler qu'on est une association d'intérêt général et on est là, nous, pour donner tout ce qu'on a compris et que ça puisse essaimer. Et donc, cet essaimage s'est fait très rapidement en une année. On n'avait pas de moyens financiers pour le faire. Ça s'est fait sur la bonne volonté, l'énergie de ceux qui étaient convaincus.
Du bénévolat donc, et puis des soutiens financiers.
Et des soutiens qui arrivent et qui se rendent compte que ce mouvement peut entraîner aussi tout l'écosystème. Et c'est vrai que nous, la CEC, on ne va pas sauver le monde, hein, mais on veut participer, catalyser aussi et donner cet espoir.
Les soutiens financiers, on peut dire de qui ou pas ?
Il y a le ministère de la Transition, il y a une fondation, la European Climate Foundation, et pas mal d'autres fondations aussi qui croient dans ce projet. C'est hyper important parce que c'est ça qui donne aussi pour nous la réassurance qu'on est dans le vrai. Donc le premier constat, c'est quand même que il y a quelque chose qui marche, il y a de l'envie, il y a des dirigeants qui font le travail dans leur entreprise et qui en plus vont convaincre d'autres dirigeants. C'est pas facile, mais il y a quelque chose qui se lance. Ensuite, au niveau des verrous, c'est vrai que c'est vraiment ce qu'on appelle embarquer l'équipage. Donc, on a des dirigeants qui ont compris, qui ont envie, et en fait, qui n'ont pas trouvé leur relais à l'intérieur de l'entreprise, notamment leur première ligne directe, ce qu'on appelle le COMEX, le comité exécutif. Si ils n'ont pas le soutien de cette équipe-là, en gros, c'est une dizaine de personnes, ça ne va pas redescendre dans l'entreprise. Donc, c'est leur capacité de leader qui est en jeu. Et finalement, c'est ça le verrou principal, parce qu'ensuite, ça débloque tous les autres. Et il y a une force d'entraînement du collectif à l'intérieur de l'entreprise. Et voilà, mais c'est une aventure. On leur dit aussi, c'est une aventure.
Et on l'a pas dit, embarquer aussi, les régions, les territoires, parce qu'il faut penser économie circulaire, proximité. Oui, Cécile Renoir.
Oui, j'allais dire aussi, c'est l'expérience justement qu'on peut faire au campus en étant dans un territoire, d'essayer de faire en sorte de faire intervenir aussi des acteurs qui sont tributaires de contraintes très locales, et puis de faire dialoguer aussi avec d'autres qui, dans d'autres territoires, ont des expériences voisines ou différentes et qui peuvent aussi inspirer des transformations. Et moi, je peux juste partager aussi, puisqu'on est depuis un mois dans des discussions quand même très très compliquées du point de vue des transitions agricoles. On avait organisé à Forges, juste avant que tout ça commence, une rencontre de force qu'on fait le samedi une fois tous les trimestres à peu près, une journée ouverte aux personnes qui veulent venir du territoire et plus largement. Et nos agriculteurs voisins nous avaient dit, mais pourquoi est-ce qu'on recommencerait pas une journée comme on avait eu il y a 5 ans? Et en fait, ils nous ont expliqué comment 35 d'entre eux se sont organisés dans une association pour passer de l'agriculture conventionnelle à de l'agriculture de conservation des sols. Et du coup, on a passé une après-midi où il y avait à la fois des agriculteurs en conventionnel, en conservation des sols, certains passaient en bio. Et on a eu des formidables échanges et dialogues sur les difficultés, les leviers que voyaient les uns les autres, la joie pour certains justement d'avoir pu commencer à changer de modèle, mais avec toutes les contraintes que représentent là des grosses propriétés.
Et donc un effet d'entraînement.
Et là, c'est exactement ce que vous décrivez là pour des chefs d'exploitation agricole qui finalement sont en train d'essayer de voir comment changer progressivement, mais avec détermination, et du coup, et de voir qu'on peut se parler aussi, et dialoguer, essayer de trouver des chemins. Et je pense que c'est ça qu'on essaye de dire, avec quand même beaucoup aussi de forces qui vont dans le sens d'une très grande polarisation, qui est très inquiétante, parce qu'il faut aussi reconnaître qu'il y a quand même des rapports de force énormes, et que quand même bon nombre d'entreprises ou de chefs d'entreprise du CAC 40 refusent de parler de décroissance des volumes de production et de consommation. Alors que c'est de ça dont il faut parler, pour dire comment est-ce qu'on crée de la valeur autrement.
Et là, je pense qu'on pourra programmer une autre émission sur les entreprises du CAC 40, parce que là, c'est un sujet en soi. Et il est l'heure aussi pour nous de retrouver l'œil du monde planète, en partenariat avec le journal Le Monde. Et nous sommes avec Perrine Moutarde pour parler d'un rapport qui alerte justement sur le rythme insoutenable auquel on extrait des ressources naturelles. Bonsoir Perrine.
Bonsoir Aurélie. Oui, ce rapport émane d'un groupe d'experts de l'ONU sur les ressources, l'équivalent en quelque sorte du GIEC pour le climat. Et tous les 5 ans, ces spécialistes dressent un panorama mondial de l'extraction et des perspectives pour l'avenir. Le message qu'ils formulent aujourd'hui est très clair. On ne peut pas continuer à extraire de la biomasse, des métaux, des minerais et des combustibles fossiles au rythme où on le fait aujourd'hui. Car si on poursuit sur cette trajectoire, il sera impossible de limiter le réchauffement de la planète, en tout cas sous la barre des 2 degrés, et de mettre fin à l'effondrement de la biodiversité. Pour vous donner quelques ordres de grandeur, cette année, on devrait extraire 106 milliards de tonnes de sable, de gravier, de résidus de culture, de bois, de pétrole, de gaz, de charbon, de métaux. Bref, toutes ces ressources qui permettent de construire des infrastructures pour se loger, pour se déplacer, qui permettent de produire de l'énergie, de l'alimentation. C'est 3 fois plus qu'il y a 50 ans. Et en 2060, cette consommation de ressources pourrait avoir augmenté de 60% par rapport à 2020. Alors, pourquoi est-ce que c'est un problème ? Eh bien, parce que l'extraction de ces ressources a des impacts très importants, ahurissant même, selon les mots des auteurs du rapport. Globalement, l'extraction et la transformation de ces matières génèrent 55% des émissions de gaz à effet de serre et environ 40% des impacts sur la santé liés à la pollution de l'air. Et c'est aussi l'un des facteurs majeurs de perte de biodiversité terrestre et de stress hydrique.
Alors, est-ce que l'ONU met en avant des solutions pour sortir de cette extraction ?
Oui, les experts ont étudié des scénarios qui montrent qu'il est possible d'infléchir la courbe. Alors l'un des gros enjeux, c'est celui de l'équité. Aujourd'hui, on s'en doute, hein, l'usage de ces ressources est très profondément inégalitaire. En gros, les pays développés consomment 6 fois plus de ressources et sont responsables de 10 fois plus d'impacts néfastes, hein, mauvais pour le climat, que les pays à faible revenu. Et donc ce que dit l'ONU, c'est que l'effort doit peser sur les habitants des pays riches, sur nous, autrement dit, qui avons déjà des infrastructures, des routes, des hôpitaux, nous devons tout simplement consommer moins de ressources. Alors ça peut passer par des mesures et des actions de sobriété. Il faut par exemple, on le sait, hein, développer les transports en commun plutôt que la voiture individuelle, même électrique. Il faut développer le recyclage, l'économie circulaire, faire durer plus longtemps les produits. Les pays en développement, eux, auront besoin de continuer à consommer davantage de ressources, de matières premières pour atteindre un niveau de développement satisfaisant. Mais il faudra là aussi que ce soit fait de manière durable et raisonnée. Donc selon l'ONU, hein, si on croit l'ONU, il est possible de limiter la hausse de la consommation de ressources tout en réduisant les inégalités et les impacts environnementaux. Encore faut-il que cet enjeu soit réellement pris en compte. Aujourd'hui, cette question des ressources est encore largement négligée quand on parle de lutte pour le climat ou pour la biodiversité.
Merci Perrine Moutarde.
Merci.
Et bien sûr, votre article sur cette question de l'extraction des ressources naturelles qui atteint un rythme insoutenable pour la planète, et bien il est à retrouver, comme d'habitude, sur la page de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet, où vous trouverez également le lien vers lemonde.fr.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Allez, dans les 3 minutes restantes à peu près, le mot de la fin pour chacun et chacune d'entre vous. Éric Duverger, on a parlé des imaginaires, on n'a pas parlé des prolongements peut-être de la CEC. On voit bien que là aussi, il y a un effet d'entraînement peut-être. En tout cas, ça fait des envieux et des envies.
Exactement. En fait, on a un double prolongement qui se produit actuellement. C'est que tous les parcours qui se sont lancés dans les territoires sont en train d'enclencher une deuxième version. Et donc ça montre qu'il y a un engouement sur les territoires. Donc ça fait des centaines d'entreprises qui s'engagent un peu partout en France. Et pour aller de plus en plus dans le local justement et faire atterrir tout ça au plus près en fait de nos territoires. Et puis le deuxième mouvement qu'on a avec la CEC, parce qu'on rêve grand, c'est l'international. Et là aussi on a été sollicité, des équipes se sont formées notamment en Suisse, en Belgique et en Angleterre. Et on est en train de donner notre méthodologie, un accompagnement. Et donc voilà, fin 2024, on aura 3 nouveaux pays qui vont lancer ça, cette démarche. Et on espère peut-être que le mouvement va devenir européen, voire plus loin.
Des bonnes nouvelles. Cécile Renoir, c'est vrai qu'on sent que c'est un monde dans lequel les lobbyistes sont très présents. Mais pourquoi ne pas devenir lobbyiste pour faire accepter cette économie régénérative et influencer le marché ?
Je dirais peut-être plutôt plaidoyer que lobbying, qui est le lobbying pour le bien commun, c'est le plaidoyer, et c'est ça l'enjeu de la part de tous à différents niveaux, et que ce soit aussi le plaidoyer par sa vie quand on essaye d'incarner davantage des formes de sobriété. Et il y a quand même beaucoup d'initiatives justement dans les territoires pour essayer d'être de plus en plus cohérent. en étant conscient que c'est pas si facile, mais voilà. Et puis ce plaidoyer très clair pour changer les règles du jeu, là nous tous comme citoyens, voilà, il y a beaucoup à faire pour essayer d'aiguillonner ces transformations à plein d'échelles. Oui.
Sophie Robert-Velu, le chemin d'après ?
Pour moi, en tout cas, ce que je retiendrai de la CEC, c'est une citation de Sénèque que je vais vous dire, qui est « Quand tu auras désappris à espérer, je t'apprendrai à vouloir ». Et je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas espérer que ça aille mieux. Il faut vouloir emprunter le seul chemin empruntable. Et c'est un chemin qui est certes semé d'embûches, mais finalement, c'est le chemin qui compte. Ce n'est pas la fin du voyage.
Et là, vous êtes quand même sur des projets spécifiques ou pas ?
Oui, la maison des parents, par exemple, qui est un sujet de coopération, et j'essaye de réconcilier justement l'entreprise privée, la collectivité territoriale et le milieu des ONG, parce que je pense qu'avec ces trois cercles-là réconciliés, on aura beaucoup plus de pouvoir d'action.
Éric Duverger, la session prochaine, c'est quand ?
Alors, session prochaine, on a là cette semaine, dans le Massif Central, une session. La semaine prochaine aussi, le Monde Financier. Et puis un grand rendez-vous pour les médias en avril, 20 avril, la session des Nouveaux Imaginaires. La CEC des Nouveaux Imaginaires, on se l'est tous dit, il faut un peu proposer quelque chose de nouveau. Et on compte sur celle-là pour provoquer ce changement systémique.
Et vous avez embarqué Radio France ou pas? Pas encore?
On y croit.
Il faut en parler à Sybille Veil.
On va le faire.
Merci à toutes et à tous. Merci Éric Duverger, merci Sophie Robert-Velu. Et merci Cécile Renoir. Cécile Renoir, je rappelle le titre de votre livre, Vers une autre gestion, édité par Les Liens qui libèrent. Et le manifeste de la grande transition, voilà, toujours édité au Lien qui libère, bien sûr, les références des livres, les liens vers la Convention des entreprises pour le climat, par exemple, et d'autres dossiers sont à retrouver sur notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet, et tous les podcasts de l'émission également. Belle soirée à tous.